Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous faites le choix de m'écouter en podcast, je vous propose de découvrir un média né il y a 2 ans sous forme de newsletter quotidienne. Il s'appelle Vert, il est sous-titré « Le média qui annonce la couleur ». Il traite, on pourrait presque le deviner, de l'actualité de l'écologie. Avant d'accueillir mes invités, qui développent Vert, on va écouter le directeur général de Greenpeace France, Jean-François Julliard, à mon micro en octobre 2021. Ses propos résonnent avec l'aventure journalistique qu'on va découvrir ensemble.
On a le sentiment que la crise climatique s'accroît, elle est de plus en plus présente, elle va de plus en plus vite. On a le sentiment que c'est une préoccupation grandissante dans la tête des Françaises et des Français, et pas seulement dans notre pays, mais dans beaucoup de pays. Et on a parfois le sentiment que l'espace accordé dans les médias à ces questions-là ne suit pas ce mouvement, ou pas suffisamment rapidement. On parle bien plus des questions climatiques aujourd'hui qu'on en parlait il y a 10 ou 15 ans, mais on a le sentiment que le rythme avec lequel ça prend est encore trop lent. C'est vrai que je comprends que des rédactions se disent c'est plus facile à couvrir le transfert de Messi qu'un rapport du GIEC qui demande beaucoup plus de temps et tout ça. Et ce qui m'inquiète aussi, moi, un peu plus que ça, au-delà de l'anecdote, c'est que je vois et je rencontre très souvent de jeunes journalistes qui ont envie de travailler sur les sujets environnementaux et qui ont du mal à trouver de l'espace dans les médias traditionnels, en tout cas pour couvrir ces sujets environnementaux. Et d'ailleurs, on voit une floraison aujourd'hui de jeunes médias en ligne, très souvent, ou de newsletters même, ou de sites internet, ou de pure player, comme on les appelle, qui traitent de ces questions-là, parce qu'ont du mal à trouver de la place dans les médias plus traditionnels pour s'intéresser de manière plus importante aux questions environnementales.
Bonjour Juliette Keff.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine, fine connaisseuse du droit social et écologiste de longue date. C'est ce qu'on lit sur le site vert.eco dont vous êtes la présidente. Bonjour Louis Espargilière.
Bonjour Steven.
Journaliste, fondateur et rédacteur en chef de Vert. Alors j'ai envie de me tourner vers vous pour commencer, Lou. Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France, qu'on entendait, ne vous citez pas, mais mon petit doigt me dit qu'il pensait notamment à vous et à l'aventure de Vert. Lou, dans votre parcours de journaliste, vous avez travaillé pour Le Monde, Mediapart ou encore Reporter. Et il y a 2 ans, vous arriviez au bout de vos droits au chômage et c'est là que sur un coup de tête, vous avez bricolé en quelques heures une ébauche de newsletter. Racontez-nous.
Oui, alors c'est très bien présenté, effectivement.
C'est ce que vous avez dit sur LinkedIn, hein, je n'invente rien.
Ça ressemblait beaucoup à mes mots. Non, effectivement, j'étais pigiste sur les sujets environnementaux et en gros, tous les matins, alors déjà, j'étais pas un très bon pigiste. J'avais beaucoup de mal à vendre des articles, à trouver des sujets qui n'étaient pas traités par ailleurs. J'avais pas assez de contacts et tout. Donc, c'est aussi pour ça que je suis arrivé au bout de mes droits au chômage. Mais en fait, en tant que pigiste sur les sujets environnementaux, tous les matins, j'avais besoin de lire beaucoup de médias pour avoir l'impression d'avoir saisi quels avaient été les principaux sujets liés à l'écologie. Voilà, en gros, schématiquement, la presse de l'écologie, elle est très compartimentée. On a, admettons, Reporter qui a une actualité plutôt sociale et militante autour de l'écologie. Le Monde sera plutôt une actualité scientifique, politique. D'autres titres sera plutôt le do-it-yourself ou l'actualité juridique, réglementaire. Et en fait, je trouvais qu'il manquait un média qui fasse ce travail-là au début de revue de presse, en gros, qui ratisse large et qui soit un véritable média généraliste sur l'écologie.
Et alors, au tout début, vous êtes dit, ok, je vais lancer ma propre newsletter et vous avez commencé par la tester en l'envoyant à quelques dizaines de copains.
Oui, c'est ça. Alors, j'ai choisi le format newsletter, non pas parce que je m'étais dit que c'était le format en vogue. Voilà, on observe qu'il y a un vrai retour de la newsletter dans le monde médiatique.
On en parle souvent dans l'atelier des médias, d'ailleurs, des newsletters.
Oui, j'ai entendu l'émission sur Plan Cash, qui était très bien.
La semaine dernière, oui.
Mais non, moi, si j'ai choisi ce format à la base, c'est parce que ça me permettait de faire rapidement et simplement un petit journal, en fait, de réhabiliter le journal ou la gazette avec quelque chose qui a un début, une fin, qui est éditorialisé. Et c'est un moyen hyper facile, en fait, de bricoler un petit média tout seul chez soi. Au début, j'étais seul, voilà. Et on parlera ensuite du fait qu'on est en train de s'agrandir. Et donc, j'ai bidouillé un petit truc, j'ai fait des rubriques, j'ai essayé de voir les sujets que j'aurais mis dans un premier numéro de ce journal-là. Et je l'ai envoyé à 50 copains qui m'ont fait des premiers retours. Et en fait, tous les jours, j'ai amélioré ça au fur et à mesure et jusqu'à ce que ça prenne la forme que ça a aujourd'hui.
Et vous avez commencé sans moyens en lançant et en proposant cette newsletter gratuitement.
Oui, c'est ça. J'ai commencé avec absolument rien ou 1000 euros que j'avais sur mon compte. Et puis, petit à petit, on s'est adjoint les services d'une graphiste. Puis, on a commencé à réfléchir, en fait, à résoudre les problèmes les uns après les autres. Et puis, ensuite, on a fait ça de plus en plus proprement. On a commencé à faire un envoi quotidien avec un joli design. Voilà, maintenant, c'est un véritable petit journal quotidien qui se lit en 7 minutes et qui est en accès libre, effectivement, parce que un des sujets principaux pour nous, c'était de permettre au plus grand nombre d'avoir accès à une information fiable, de qualité et facile d'accès sur la crise climatique et celle de la biodiversité.
On va y revenir. Juliette Keff, vous êtes de celles et ceux qui ont rejoint Lou Espargilière dans cette aventure. Au début, vous étiez notamment relectrice, correctrice de cette newsletter, mais vous avez aidé Lou à structurer le projet et à le faire grandir.
Oui, tout à fait. Au début, en fait, j'ai suivi l'émergence, on va dire, de cette idée. Donc, j'ai beaucoup accompagné Lou, y compris dans les tout débuts. Et j'étais vraiment emballée par le projet. J'étais complètement happée. Donc, j'avais envie, en fait, dès le début, de prêter la main, si on peut dire, à toute cette belle aventure. Et du coup, j'étais notamment, effectivement, relectrice de la newsletter, puisque quand on écrit, c'est extrêmement difficile de se relire soi-même. Il y a toujours des petites erreurs qui se glissent dans chaque numéro. Donc, j'allais avec mon œil un peu rigide sur l'orthographe, repérer les petites erreurs. Et progressivement, je suis intervenue, en fait, sur un certain nombre de tâches supplémentaires. Notamment, nous avons organisé l'anniversaire, le lancement de Vert. C'était en janvier 2020 et j'ai participé donc à l'organisation de tout cet événement, puis progressivement à la structuration effectivement de cette petite newsletter qui en fait a connu toute une aventure et a grandi beaucoup. Notre newsletter est destinée au grand public et nous avons très vite repéré qu'elle pouvait aussi être destinée à des professionnels, c'est-à-dire des gens qui paieraient pour cette newsletter et qui, dans leurs activités, ce travail de veille que Vert fait au quotidien, ça pouvait leur servir en fait. Donc c'est pour ça que progressivement, on s'est mis à développer des activités commerciales et puis à recruter, je pense qu'on va y venir, des gens pour nous aider à porter le projet.
Ce qui est intéressant aussi, c'est l'intérêt que vous avez porté au ton, à la titraille, au choix des mots. Peut-être peut-on revenir sur le format et sur la question des 7 minutes chrono qui vous est chère depuis les débuts de Vert. D'ailleurs, l'idée que la newsletter quotidienne de Vert puisse être lue en 7 minutes chrono. Pourquoi ces 7 minutes et d'où vient ce chiffre?
Un des constats, c'est que l'écologie, c'est un sujet qui est monde, c'est un sujet qui est majeur pour nous, mais c'est pas un sujet, pour beaucoup de gens en fait, c'est pas un sujet qui doit occuper tout leur temps d'information, tout le temps médiatique. Et en fait, il y a beaucoup de titres qui existent et qui font des articles très fouillés, très complets, comme Reporter ou Le Monde, mais c'est des articles qui chaque article, c'est 10 minutes de lecture, et il y a plein de gens qui n'ont pas forcément ce temps à consacrer à un seul sujet sur l'écologie chaque jour. Et donc l'idée de Vert, c'était que en 7 minutes, on a accès à tout un tas de sujets, avec des brèves, des articles plus longs, des images, des vidéos. On peut creuser en cliquant sur les liens, et en fait, on peut poursuivre la navigation très longtemps. Mais en 7 minutes, en fait, on peut glisser ça dans son information, dans sa veille quotidienne, sur tout un tas d'autres sujets. Et donc, ça permet à des gens, en fait, ils n'ont plus l'excuse du temps que ça leur prend. On a beaucoup travaillé le ton et l'écriture pour faire quelque chose d'agréable à lire. Il y a pas mal de jeux de mots. C'est un peu, l'idée, c'est que ce soit pas non plus que des petites dépêches comme ça, mais c'est qu'on prenne plaisir à le lire et puis, qu'ensuite, on se partage les sujets.
Le ton, on le retrouve aussi dans le nom des rubriques que vous avez choisies. Si l'on va par exemple sur le site internet, parce que Vert n'est plus seulement une newsletter, c'est aussi un site internet qu'on trouve sur vert.eco, vert.eco. Je vais citer quelques-unes des rubriques. C'est chaud, qui parle du climat. Rapport de force, qui parle de politique, de militantisme. Les marteaux des fossiles, à propos des énergies. Greenwashing sur l'éco-blanchiment, bien sûr. Extinction n'est pas raison sur la biodiversité. On voit que ces sujets-là, vous les mettez, en première page, en gros. Des sujets qui souvent sont relégués sur le site des médias traditionnels, dans des pages de section ou alors plus bas sur la homepage.
Oui, en fait, le constat qu'on fait, c'est que l'écologie ne doit plus être une petite rubrique qu'on laisse dans un coin où les écolos, en gros, ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais on regarde pas trop. En fait, l'écologie, pour nous, c'est un prisme au travers duquel on doit tout reconsidérer dans la société. Et donc, effectivement, une rubrique qui est très importante chez nous en ce moment, c'est celle de rapport de force sur la politique et le militantisme. Parce qu'on est en pleine campagne présidentielle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent cette année autour du climat. Il y a des sommets importants, comme il y a eu la COP26 en novembre dernier. Il y a des sommets sur la biodiversité. Et donc, en fait, on invite vraiment les gens à considérer l'ensemble de la société, l'ensemble des activités humaines, au travers du prisme de l'écologie. Donc, c'est ça qu'on essaye de faire avec Vert.
Et pour ça, il faut aussi aller chercher des bonnes plumes, des signatures. Juliette Keff, dernièrement, l'équipe de Vert s'est agrandie, ou en tout cas s'est enrichie de nouvelles collaboratrices et de nouveaux collaborateurs, notamment Anne-Sophie Novel. C'est important pour vous justement d'aller chercher des gens qui ont une communauté et une expertise autour de ces sujets-là?
Oui, alors on a d'abord grandi avec des pigistes, hein, puisque Anne-Claire Poirier notamment, qui est une pigiste reconnue dans le milieu, qui est spécialiste de l'énergie et qui pige aussi chez Context, nous a rejoint dès la première année. Donc voilà, ça a été une des premières collaboratrices qu'on a pu accueillir en tant que pigiste, donc c'est-à-dire journaliste occasionnelle qui intervenait dans notre média. Et progressivement, on a aussi construit une équipe avec une alternante journaliste, Justine Prado, qui nous a rejoint à la rentrée. Et plus récemment, effectivement, Anne-Sophie Novelle, qui est un peu un grand nom de la presse dans l'écologie, qui a notamment publié Les Médias, Le Monde et Moi chez Actes Sud.
On l'avait reçu dans l'atelier des médias pour ça.
Qui en a fait un documentaire également. Et qui, voilà, est une plume, effectivement, qui a aussi son blog sur Le Monde. Et vous l'avez rappelé, on a aussi un travail sur l'écriture qui est extrêmement intéressant et extrêmement prégnant. Et ce travail, bah, forcément, on recherche chez nos pigistes, nos collaboratrices, nos collaborateurs, certaines plumes. Et on va pouvoir écarter des plumes qui ne nous plaisent pas vraiment, puisqu'il y a justement ce travail comme pour un petit canard. En fait, on veut rendre l'écologie cool et l'écologie accessible, l'écologie pour les lycéens, l'écologie pour les étudiants, l'écologie à tout âge, pour les profs. Donc il y a vraiment ce travail sur l'écriture, sur le fait que ces informations doivent rentrer dans quelque chose qui est agréable à lire, qui fait partie du quotidien et qui est cool.
Louise Pergillère, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, en fait, moi je suis... Enfin, quand j'étais ado, et maintenant, j'ai beaucoup lu Le Canard Enchaîné. Et en fait, un des trucs qu'il y a dans Le Canard Enchaîné, c'est que c'est que des nouvelles affreuses toute la journée. Mais il y a toujours... ça se lit comme un bonbon, en fait. Il y a toujours des astuces, des jeux de mots et qui font que, en fait, la pilule qui est très amère, bah là, elle passe, quoi. Et en fait, c'est pas comme ça qu'on l'a pensé, mais finalement, c'est un peu ce qu'on fait aussi. C'est qu'on en fait, quelque chose de drôle, de sympa, et ça permet d'accepter plus facilement les nouvelles les plus difficiles. Et par ailleurs, on fait un vrai travail, on essaye vraiment de trouver quelles sont les bonnes nouvelles et les bonnes idées, sans être dans l'optimisme béat ou tomber justement dans le greenwashing. Donc vous ne lirez pas d'article sur le nouveau sac à dos recyclable de je ne sais pas quelle marque de sport. Par contre, c'est des vraies bonnes nouvelles, des vraies bonnes idées qui permettent de transformer la société, qui ont un réel impact à toute échelle, à l'échelle individuelle ou plus collective.
Dans le 6e baromètre des Assises internationales du journalisme, on apprenait que plus d'un Français sur deux estime que les journalistes et les médias n'accordent pas assez de place aux questions posées par le changement climatique et l'environnement. Et est-ce que l'ambition de Vert, c'est d'être un média de complément à l'offre déjà existante dans le monde des médias? Ou alors, est-ce que vous dites qu'il y a, ça peut être un média à part entière qui est lu pour ce qu'il est et qui devienne une source d'information assez généraliste au final?
Bah, c'est tout à fait cet objectif qu'on a là. On veut vraiment devenir un média généraliste de l'écologie. Alors on sait qu'aujourd'hui c'est un sujet qui est, comme on vient de le dire, qui n'est pas un sujet majeur. Il y a beaucoup de médias qui en parlent très peu. Il y a peu de médias bien établis qui en parlent beaucoup, à part Reporters. Et notre vocation, c'est vraiment de devenir un véritable pure player, de peser dans le débat médiatique et politique, et vraiment d'outiller le plus grand nombre pour que les gens réussissent à se figurer déjà l'état réel du climat. Beaucoup de gens pensent encore que c'est quelque chose de futur et de lointain, alors que le climat s'est déjà réchauffé de 1,2 degré.
Donc c'est du concret, ouais.
C'est du concret, la crise elle est absolument partout, et y compris en France. Donc il faut que les gens arrivent à se figurer que l'urgence elle est maintenant, quels sont les ordres de grandeur et quelle est la capacité d'action des citoyens à chaque échelle. Et donc nous on veut vraiment occuper une part qui pour l'instant est complètement vide, en fait il y a un siège vide dans le paysage médiatique qu'on essaie d'occuper.
Juliette Kieff, Vert vient d'être reconnu comme un média d'information politique et générale, un IPG, ça signifie quoi pour vous, que l'écologie est devenue un sujet éminemment politique ?
Tout à fait. Daniel Schneiderman d'Arrêt sur Image effectivement disait que l'écologie est le nouveau tout est politique. C'est-à-dire qu'en fait, comme le disait Lou tout à l'heure, l'écologie est vraiment ce prisme par lequel on va voir le monde. Donc l'écologie se retrouve partout. Et l'écologie est éminemment politique, puisque dès qu'on parle des cause du réchauffement climatique et surtout des solutions. Alors là, la politique entre vraiment en jeu puisqu'il s'agit de déterminer les bonnes solutions et les fausses solutions avec le greenwashing qui aujourd'hui, comme l'a dit Laurence Tubiana, l'ancienne négociatrice de l'accord de Paris, est le nouveau déni climatique. Donc aujourd'hui, avec Vert, on fait vraiment ce travail de décryptage des fausses solutions, que ce soit l'avion à hydrogène, voilà cette usine de captation de carbone en Islande. Il y a un certain nombre de sujets qu'on va en fait révéler et dire bah non, en fait, dans ces solutions-là, on peut pas compter les solutions technologiques dont on a finalement pas grand pouvoir pour en faire des solutions qui sont des solutions réelles. J'interviewais par exemple Julien Vidal, qui est le fondateur de la communauté Ça commence par moi, qui vient de sortir un livre qui s'appelle 2030 glorieuse, dans lequel il propose un certain nombre d'utopies vivantes. Et ces utopies, en fait, ce sont des vraies solutions. Ces solutions, on les connaît. En fait, la société civile, elle les travaille depuis plus que 30 ans. Greenpeace a eu 50 ans cette année. Donc voilà, on sait que la société civile a les solutions. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on veut faire, c'est donner la parole aux scientifiques, donner la parole aux organisations non gouvernementales, à toutes les associations qui travaillent sur le terrain et aux citoyens qui regorgent d'idées et qui les mettent d'ores et déjà en pratique sur le terrain.
Et l'écologie, c'est une préoccupation aussi qui doit être regardée de façon globale. Donc vous êtes très attentif à ce qui se dit et ce qui se fait à l'international aussi.
Absolument, absolument. D'ailleurs, si aujourd'hui vous vous rendez sur vert.eco, vous verrez qu'on a parlé de la nomination de Jennifer Morgan. Donc on revient sur Greenpeace, décidément, qui est un peu le fil vert de cette émission. Jennifer Morgan, directrice générale de Greenpeace International, et qui vient d'être nommée au ministère des Affaires étrangères allemand. Et donc elle va être chargée de conduire des négociations internationales sur le climat, avec des acteurs qui sont soit non gouvernementaux, soit des États. Donc on a effectivement un regard bien au-delà des frontières françaises, puisque évidemment, et c'est le constat qu'a fait le gouvernement allemand dans cette nomination, le climat ne s'arrête pas aux frontières nationales, le climat c'est un sujet mondial, et on regarde beaucoup ce qui se fait à l'étranger, parce que justement, une des choses qu'ont réussi à mettre en lumière Greenpeace et les associations de la société civile au niveau mondial, c'est qu'en fait le mouvement pour le climat, c'est pas du tout un mouvement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui est européano-centré ou américain. C'est un mouvement qui est mondial et qui a de très très forts représentants dans les pays du Sud, et notamment en Afrique. Et aujourd'hui, parmi les jeunes figures du mouvement pour le climat, on a Hilda Flavia Nakabuye, on a Vanessa Nakate au Kenya, on a beaucoup de jeunes femmes, notamment africaines, qui portent ce combat-là dans des pays où c'est encore très difficile d'obtenir des victoires au niveau politique, quoi.
Et vous le disiez tout à l'heure aussi, dans l'ADN de Vert, l'intérêt, c'est aussi de faire entrevoir des solutions, de montrer que non, il ne faut pas juste avoir une approche collapsologue et se dire tout va s'effondrer, on va dans le mur et c'est fini. Non, il y a des choses que l'on peut faire concrètement à notre niveau et aussi que la société civile peut essayer d'imposer aux décideurs.
Absolument. Alors, je ne sais pas s'il y aura un effondrement ou pas. Je ne suis pas du tout assez qualifié pour me prononcer là-dessus. Simplement, il y a quelque chose dans l'approche effondriste de bon, de toute façon, c'est foutu, voilà, foutu pour foutu. Soit je fais absolument rien, soit je m'extrais complètement de la société. Nous, on considère que ces approches, elles impuissantes un peu. Et donc, on essaye de montrer tout ce qu'il est possible de faire à chaque niveau. On explique bien par ailleurs que les gestes individuels, et il y a un rapport du Shift Project qui l'avait montré, en fait on a la main sur 25% de nos émissions à peu près au niveau individuel, et tout le reste de nos émissions est produit en notre nom, par la puissance publique, par les grandes entreprises. Arrêter de manger de la viande ou arrêter de prendre l'avion, c'est deux des meilleures mesures à prendre au niveau individuel. Ça a un impact énorme, c'est pas du tout négligeable. En revanche, si on veut vraiment réduire les émissions nationales, ça suffira absolument pas. Et donc il faut se tourner vers des modes d'organisation plus collectifs, plus larges au niveau national ou international, et effectivement mettre la pression sur les dirigeants, dont d'ailleurs on a beaucoup fait le bilan ces derniers jours dans Vert. Vous pourrez lire un long bilan basé sur le travail des associations, sur le bilan climatique d'Emmanuel Macron et aussi son bilan en matière de biodiversité.
Juliette Keff, vous qui êtes la présidente de Vert, des gens qui nous écoutent pourraient se dire la démarche de ce média semble être éminemment politique ou militante en tout cas. Que répondez-vous à ceux qui vous disent que l'approche de Vert est militante ?
Je répondrais qu'on est un média engagé. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut arrêter avec cette idée que le journalisme est neutre par essence, c'est-à-dire qu'on ne parle pas du tout de neutralité dans Vert. La neutralité, c'est un concept voilà, qui est un impensé, en fait. Nous, on parle d'un média engagé. C'est-à-dire que oui, on s'engage pour que la société change. Donc à partir de ce moment-là, on peut nous traiter de militants, mais effectivement, on pousse pour faire émerger des solutions qui nous paraissent être les bonnes, qui ne sont pas forcément d'ailleurs extrêmement vues dans d'autres médias. Donc on va parler de certaines propositions des candidats qu'on soutient. Je parle des propositions, pas des candidats, puisqu'on ne soutient aucun candidat chez Vert. Mais par exemple, voilà, l'ISF climatique, donc créer un impôt sur la fortune qui intégrerait les émissions carbone de chaque individu, c'est une proposition qui nous paraît intéressante, donc c'est une proposition qu'on va aller étudier, qu'on va aller documenter et qu'on va aller pousser. Ça ne fait pas de nous pour autant des militants à proprement parler, puisque le militantisme c'est du domaine des associations et ce n'est pas le domaine des journalistes.
Quelle exemplarité essaye d'avoir Vert.eco dans son fonctionnement au quotidien ? Essayez-vous aussi, vous, peut-être, d'être un média zéro carbone, si tant est que cela soit possible. Alors, qui va répondre parmi vous ?
C'est la première fois qu'on nous pose cette question, je crois, donc on va prendre un petit temps de réflexion. Bon, déjà, on ne prend pas l'avion, chez Vert, en tout cas. On n'envoie pas de personnes aller couvrir un événement en avion. Ça, de toute façon, c'est rédhibitoire pour nous. Il y a plein de gens qui sont qualifiés sur le terrain pour faire des reportages. Donc, on va préférer, en fait, payer une pige, c'est-à-dire déléguer notre pouvoir de reportage à quelqu'un sur place qui va pouvoir, effectivement, aller faire ce reportage, aller traiter le sujet et qui, bien souvent, en plus, en local, aura plus d'éléments que nous qui sommes basés à Paris pour documenter tout cela.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la fin de vos newsletters, vous écrivez « La conservation d'emails produit du CO2. N'hésitez pas à supprimer vos anciens numéros. »
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. La pollution numérique est un vrai problème. C'est un sujet qu'on a abondamment couvert dans Vert, justement, et on a montré que, alors, la majeure partie de la pollution numérique des émissions de CO2, c'est les terminaux. Il vaut mieux arrêter de changer de téléphone tous les ans que de supprimer tous ces mails, mais ça fait partie des choses à faire. Et c'est assez marrant, d'ailleurs, il y a des gens qui nous ont reproché de faire un média sous forme d'email, comme si ça avait un bilan carbone comparable à n'importe quel autre média qui a des voitures, qui a des gros bureaux chauffés, qui envoie ses reporters partout. Donc en fait, c'est marrant parce qu'on n'a jamais fait notre bilan carbone, mais en fait, on n'a quasiment aucun déplacement. Enfin voilà, on se déplace à vélo, nos reporters, ils sont sur le terrain, ils prennent quasiment jamais la voiture parce qu'ils sont sur place. Donc je pense qu'on a un impact qui est quand même infinitésimal. Quoi.
Parce qu'il y a certains médias, on va dire, qui sont très très pointilleux sur ces questions-là, qui vont même jusqu'à réduire le poids des images qui s'affichent sur leur site ou dans leur newsletter pour qu'effectivement la pollution numérique et le poids sur les serveurs soient réduits. J'aimerais qu'on parle ensemble, Louis Espargilière et Juliette Keff, du modèle économique de Vert.eco. C'est donc à la base une newsletter qui est gratuite, mais avec un prix d'abonnement libre. Expliquez-nous comment vous fonctionnez et comment vous faites pour vivre au quotidien et rémunérer les pigistes que vous sollicitez.
Donc on a deux piliers de financement principaux. Effectivement, au début, on a fonctionné uniquement avec les dons. C'est-à-dire que pendant un certain nombre de temps, on a collecté, et on collecte toujours d'ailleurs, des dons via une plateforme qui s'appelle OKPAL, qui nous permet de recevoir des dons qui sont défiscalisés à hauteur de 66%. C'est intéressant pour les gens. Comme toute association, en fait, c'est possible de recevoir ce genre de dons.
Voilà, les utilisateurs peuvent faire déduire de leurs impôts une partie de l'argent qu'ils vous donnent.
Tout à fait. Et on a reçu également une subvention qui a récompensé le projet de la part du ministère de la Culture, qui s'appelle la Bourse d'émergence, à hauteur de 50 000 euros. Donc ce qui nous a, pour les deux premières années, bien servi à rémunérer les pigistes et puis à nous rémunérer nous-mêmes, puisque nous sommes effectivement salariés de ce média. Et par ailleurs, nous avons un deuxième pilier de financement qui est les abonnements. C'est-à-dire que notre logique, c'est que toutes les entreprises, les lycées, les collectivités qui ont des budgets dédiés, peuvent s'abonner à Vert et du coup ça nous fait des revenus qui sont des revenus plus solides et plus réguliers que les dons. Donc c'est un volet commercial que nous sommes en train de développer et c'est assez rare dans la presse d'avoir ces deux volets, à la fois les dons d'un côté et puis les abonnements de l'autre.
Parce que pour l'instant vous avez 10 000 abonnés à la newsletter qui la reçoivent, mais combien d'abonnés payants dans tout cela ? Combien de collectivités ?
Alors, il y a deux choses différentes. Donc, les abonnés payants individuels, le grand public. Et là, on a environ 400 donateurs. Je crois qu'on a même dépassé les 400 donateurs.
On a 500 donateurs.
500 ouais. Donateurs, voilà. Et à côté, les collectivités publiques, les entreprises. Et là, il y en a déjà une dizaine qui sont abonnés à Vert.
Et aussi, ce qui est la particularité de Vert, c'est que vous n'avez pas de publicité. Pas du tout. Pourquoi ce choix ?
Une des raisons pour lesquelles il y a cette crise de la presse qui perdure, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de médias qui ont basé leur modèle économique sur la publicité. Et Internet a fracassé ce modèle-là en démultipliant les supports où il était possible d'afficher de la publicité. Et on a vu beaucoup de médias qui ont trop basé leur modèle économique là-dessus se casser la tronche. Et donc, ce n'était pas ce qu'on voulait faire. Par ailleurs, on voulait être le plus ouvert possible et donc pas faire de système d'abonnement payant, justement pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès à cette information-là facilement. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qui nous reste ? La publicité, le contenu sponsorisé, en fait, ça a été vite hors de question aussi. Parce que quand on parle d'écologie, en fait, on touche à beaucoup de secteurs de la société de consommation, beaucoup d'entreprises qui produisent. En fait, il y a un des écueils de la publicité, c'est qu'on finit par plus être capable de choisir ses annonceurs à la première difficulté. Et on a vite fait de se retrouver avec des publicités pour la BNP Paribas qui arrose aujourd'hui toutes les entreprises qui parlent d'écologie.
Qui fait du greenwashing.
Qui fait du greenwashing à fond, qui investit à fond, qui essaie de mettre le maximum d'argent dans le mouvement climat. Et donc, on aurait eu vite fait de se retrouver avec à afficher des publicités qui seraient pour nous un peu déshonorantes, quoi. Donc c'est à la fois parce qu'on croit que c'est pas un modèle économique solide et à la fois pour des raisons plus de liberté, d'indépendance.
Vous cherchez tout de même à développer votre diffusion au sens le plus large, donc newsletter, site internet, également un compte Instagram qui lui aussi va bientôt avoir 10 000 abonnés si j'ai bien compris, une chaîne YouTube. L'intérêt c'est ça, c'est d'avoir une stratégie d'hyper distribution, de jouer sur la découvrabilité de vos contenus et surtout des sujets que vous portez.
En fait, on a pas une stratégie à 10 ans comme ça, on n'a pas un plan machiavélique pour envahir le paysage médiatique. On fonctionne beaucoup par itération, on essaye des trucs, on voit si ça marche ou pas. Donc on a commencé à faire de la vidéo, on a fait quelques entretiens qu'on peut trouver sur YouTube, où il y a notamment Guillaume Meurice, Priscilla Ludowski, plein de personnalités très intéressantes et qu'on n'a pas forcément trop entendu sur l'écologie. Puis en fait, la difficulté, c'est qu'on n'est pas très nombreux. Et en fait, on a eu peur de se diluer un petit peu au bout d'un moment. Et on s'est dit peut-être qu'il faudrait revenir un peu à nos fondamentaux et garder un peu d'énergie pour faire d'autres choses. Parce que dès qu'on va sur une autre plateforme, c'est de l'énergie, du temps et de l'argent en plus. Trois choses dont tout petit média manque assez souvent.
Vous soufflerez les 2 ans de Vert le 23 mars prochain à la Recyclerie à Paris. Juliette, que peut-on souhaiter à Vert Eco pour les années qui viennent?
Un développement extrêmement fulgurant et massif, donc des abonnés de plus en plus nombreux, et aussi bien sûr des donateurs qui nous rejoignent, qui seront de plus en plus nombreux. Et d'ailleurs, au printemps, on associera nos lecteurs de manière un petit peu plus étroite, donc on pourra peut-être vous en dire plus à ce moment-là. Mais voilà, notre but, effectivement, c'est de devenir un grand média généraliste sur l'écologie, donc un média qui aurait toute sa place dans le paysage médiatique.
Louis Espargilière, pour la présidentielle française qui approche, un dispositif spécifique sera mis en place sur Vert?
Oui, alors c'est un dispositif de petits médias, mais oui, on fait de l'analyse des programmes au travers du prisme de l'écologie. Ça, on a déjà commencé à le faire. On fait aussi notre contre-programme, comme en parlait Juliette tout à l'heure, où on va regarder quelles sont les propositions qui nous semblent les plus importantes, les plus enclines à enclencher un changement à grande échelle. Et donc, on fait un contre-programme en fait, qu'on pourra lire au fur et à mesure sur le site de Vert. Et puis ensuite, on va essayer de regarder un petit peu les exemples à l'étranger, ou historique, ou au niveau local, d'écologistes au pouvoir, pour voir quelle forme ça peut prendre et quelles sont les marges de manœuvre à tous les niveaux.
Merci Louis Espargilière, fondateur et rédacteur en chef de Vert.eco.
Merci beaucoup.
Et merci Juliette Keff.
Merci beaucoup.
Présidente de Vert, merci d'être venue dans l'atelier des médias. Je vous dis à bientôt.
RFI.
On termine cette émission avec Mondoblog Audio qui fait entendre les voix des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Cette semaine, c'est une rediffusion que l'on vous propose, direction la RDC, où les intérêts financiers menacent les forêts de ce pays continent.
Mon pays, la République démocratique du Congo, qui possède la moitié des forêts et des ressources en eau de l'Afrique, est naturellement surveillé de près par les ONG qui défendent l'environnement. Dans ce contexte, pour la RDC, l'exploitation raisonnée et efficace des ressources, ce n'est pas seulement une nécessité économique, mais une obligation morale. Il est essentiel que la RDC s'engage dans la voie de l'économie verte. L'ONG Greenpeace est très attentive à la préservation des ressources naturelles sur le continent africain. Par exemple, elle publie chaque année une étude sur la préservation des forêts en Afrique. L'objectif est que les forêts africaines ne connaissent pas le sort des forêts indonésiennes et malaisiennes. La seule solution, c'est d'adopter des politiques zéro déforestation. Notre continent ne représente encore qu'un faible pourcentage de la production d'huile de palme ou de caoutchouc au niveau mondial. Mais aujourd'hui, on assiste à une véritable ruée sur les forêts africaines. Des dizaines de milliers d'hectares de forêts sont convertis en plantations de palmiers à huile et d'EVA avec de lourdes conséquences sur le réchauffement climatique. C'est triste, mais l'Afrique est devenue un nouveau terrain de jeu pour les industriels. Et cela concerne bien sûr le bassin du Congo, l'une des plus grandes forêts tropicales du monde et le 4e puits de carbone le plus important de la planète. Aujourd'hui, il est largement temps de nous questionner sur notre comportement face à la Terre et sur notre responsabilité envers elle. Les États, mais aussi les particuliers, doivent faire leur maximum pour éviter une catastrophe planétaire, voire la disparition de toute forme de vie sur Terre. C'est l'un des enjeux majeurs de ce 21e siècle. Alors, qu'attend-on pour agir ?
Mondoblog.org.
C'était le monde blogueur et journaliste congolais Stanislas Tamboué du blog RD Congo Réalité. Vous pouvez écouter ce monde blog audio et des dizaines d'autres encore sur mondoblog.org. C'est la fin de cette émission réalisée par David Brocouet. Si vous aimez l'Atelier des médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast chaque samedi avant même qu'il soit diffusé sur RFI. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict ou encore l'appli Radio France. Sur toutes les plateformes où vous le pouvez, mettez des étoiles au podcast de l'Atelier des médias et postez des commentaires pour que ce programme que vous avez suivi ait davantage de visibilité et puisse donc être encore plus écouté. Pour me contacter, un mail atelier@rfi.fr ou un message via Twitter. Je m'appelle Steven Jambeau, je vous retrouverai la semaine prochaine pour un nouvel Atelier des médias.